Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. En France, le transport routier, c'est plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est le secteur le plus polluant et c'est la voiture particulière qui est responsable de plus de la moitié de ces émissions. Alors se passer de voiture, oui, ce serait bien, mais on va pas se mentir, c'est pas toujours possible. Alors que conduire autrement, ça, en revanche, oui, c'est tout à fait faisable.
Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine Demory.
Johan Berthe, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le président de Drivinov. Drivinov, c'est une auto-école, mais pas n'importe laquelle, une auto-école de dernière génération. C'est quoi la différence avec une auto-école lambda ?
Alors, Drivinov se démarque par son approche innovante et responsable de l'apprentissage de la conduite. Pour le grand public, on propose des formations complètes pour aller jusqu'au permis de conduire, qui intègrent les bases pour le permis de conduire, certes, mais également des notions d'éco-conduite, de risque routier, de la bonne utilisation des engins de déplacement personnel, comme la trottinette, les vélos ou autres, et de l'intermodalité. Et pour les entreprises, ça va être, même pour les institutionnels, on propose des formations spécifiques axées sur l'éco-conduite, risque routier, et nous les aidons à décliner des actions opérationnelles en lien avec la RSE et à faire évoluer bien sûr leur plan de mobilité.
Et concrètement, qu'est-ce qu'il y a de vraiment d'innovant ? Par exemple, je crois que vous avez un simulateur de conduite un peu particulier.
Oui, tout à fait. Le simulateur de conduite qui peut être utilisé en réalité virtuelle offre un environnement d'apprentissage contrôlé et sécurisé. En fait, pour reproduire finalement l'expérience de la conduite, et il permet à nos apprenants de s'exercer à diverses situations de conduite, y compris celles qui peuvent être rares ou dangereuses dans la vie réelle. C'est-à-dire on peut simuler des accidents, revenir en arrière, faire pas mal de choses intéressantes pour l'apprenti. Et de plus, l'utilisation de ce simulateur aide à réduire la consommation de carburant et donc les émissions de gaz à effet de serre.
Quand on s'entraîne dans le simulateur, on n'est pas dans une voiture qui roule avec du carburant.
Exactement.
C'est comme un gros jeu vidéo, en gros.
Alors, on va dire que c'est un serious game, c'est-à-dire que c'est pas tellement le jeu vidéo divertissant, ça va être le serious game qui va permettre de pouvoir faire des choses ludiques, qui va permettre aussi d'apprendre beaucoup plus facilement. D'ailleurs, on a même créé un escape game pour apprendre le code de la route.
Ah, ça, c'est super.
Oui.
Comment ça marche, cet escape game ?
En gros, simplement, ça permet de pouvoir avoir un thème un peu particulier. Alors, on a différents thèmes. Ça peut être de démasquer un peu les mauvais conducteurs en étant un inspecteur du permis de conduire. Il y a différents scénarios dans différentes pièces. Bref, voilà. Il y a différentes choses à voir dans ce sens-là.
Et puis, on le sait que quand c'est ludique, on apprend toujours plus facilement, en tout cas.
Exactement.
Alors, on parlait du simulateur qui permet d'économiser du carburant, mais justement, les cours pratiques, parce qu'il y a quand même des cours vraiment pratiques dans des vraies voitures, elles sont thermiques ou électriques ?
Alors, on a un mix des deux. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une voiture à boîte manuelle électrique. Bon, c'est un non-sens, ça c'est une certitude, mais surtout on ne peut pas. Donc on a une partie thermique pour les voitures manuelles, donc qui représentent entre 40 et 50% de la flotte, et le reste c'est en électrique.
Et à part cette différence de boîte, est-ce qu'on conduit une électrique comme une thermique ou pas ?
Non, c'est vraiment une autre manière de conduire. Aujourd'hui, un véhicule électrique, on n'utilise quasiment pas le frein. Sauf en cas d'urgence, bien évidemment, il faut les utiliser, ça
oui,
c'est clair.
C'est
Mais c'est vrai que il y a une autre approche. Il faut savoir que si on n'utilise pas correctement la voiture, on va user de manière assez impressionnante les pneumatiques. Donc ça aussi, dans l'éco-conduite, il faut en tenir compte. Les freins, pareil, dans l'éco-conduite, on en tient compte. L'usure du véhicule dans son ensemble. Bref, il y a pas mal de choses à mettre en application.
D'ailleurs, sans faire toute la formation, bien sûr, mais vous pouvez nous donner des petits conseils pour une conduite un peu plus écolo.
D'accord. Alors, entre les deux, alors que ce soit électrique ou thermique, déjà maintenir une vitesse constante, c'est déjà pas mal. Ensuite, vérifier régulièrement la pression des pneus, parce que de rouler avec des pneus sous-gonflés augmente la consommation de carburant. On peut parler aussi de réduire l'utilisation de la climatisation, car ça, pareil, la climatisation augmente la consommation en électrique et la consommation de carburant. Planifier les déplacements aussi, on a tendance à oublier. C'est-à-dire avec Waze ou autre, on a tendance à ne pas planifier les déplacements, mais ça permet quand même d'éviter les heures de pointe. Par exemple, véhicule électrique, ça permet de planifier les bornes de recharge au bon moment. Un conseil primordial, si on prend l'autoroute avec un véhicule électrique, évitez de s'arrêter aux heures de repas. Car là, il y a tout le monde qui fait le plein de son véhicule électrique, par exemple.
Oui, ça, je pense qu'on l'a tous vécu sur la route des vacances.
C'est ça, exactement.
Et d'ailleurs, cette éco-conduite, elle n'a pas que des avantages écologiques, justement. C'est quoi les autres avantages ?
En gros, on va avoir le côté pécunier qui va rentrer en compte. Et avant, c'était moins vrai, maintenant, bien plus au niveau de l'électrique par rapport au thermique. C'est-à-dire que le thermique, en ayant le prix du carburant qui joue à la crypto-monnaie en ce moment, tellement qu'il varie, on comprend l'efficacité immédiate. Les véhicules électriques, notamment pour les entreprises, de recharger un véhicule 3 fois au lieu de 5 fois dans le mois, je prends des chiffres au hasard, ça fait une sacrée différence à la fin.
Et puis c'est aussi une conduite qui est plus sécurisante, peut-être, on roule moins vite.
Tout à fait, qui dit éco-conduite dit conduite préventive, bien évidemment, donc qui enlève du risque routier.
Alors vous parliez argent, vous avez donc cette auto-école qui est quand même très innovante, elle est plus chère qu'une auto-école classique ?
Non, on a des prix en fait très compétitifs, c'est-à-dire que l'innovation nous permet justement de faire des économies sur certains points et pour une efficacité accrue. Donc au final, on a vraiment un rapport qualité-prix idéal, j'ai envie de dire, et puis surtout, on accepte tout type de financement. Que ce soit le CPF, que ce soit Pôle emploi ou autre, en fait, on est dans l'inclusion la plus totale, c'est-à-dire on refuse personne.
Alors, je vais vous proposer des questions un petit peu plus personnelles. Ça va être l'interview, pour le coup, spéciale voiture.
Ok.
Automatique ou manuel ?
Automatique.
Hybride ou électrique ?
Très bonne question, mais je dirais quand même électrique.
Conduite en ville ou à la campagne ?
Plutôt en ville.
Sportive ou familiale ?
Familiale, avec un enfant et mon épouse.
Il n'y a pas le choix, là. Le petit geste pas très écolo que vous n'arrivez pas à arrêter.
C'est vrai que même en ayant à l'esprit l'importance de l'éco-conduite, il m'arrive parfois, même moi, à l'arrêt, d'oublier par exemple de couper le moteur si je n'ai pas le start and stop. Donc c'est des choses assez bêtes, mais c'est vrai que on essaie de le faire à chaque fois, mais des fois on oublie malheureusement.
Il faut que les automatismes se mettent en place en tout cas. Alors on va regarder un petit peu la suite. Donc une fois le permis en poche, ça c'est très bien. Pour autant, vous abandonnez pas les jeunes conducteurs à ce moment-là. Vous les aidez encore ensuite, notamment pour l'achat de la voiture.
Oui, exactement. En fait, le déclic, ça a été avec des personnes qu'on a accompagnées qui étaient super. Par contre, première voiture, Porsche Cayenne. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils voulaient.
Oui.
C'est vrai que les Porsche Cayenne, on peut en trouver à moins de 10 000 euros. Ça peut être alléchant pour beaucoup. Sauf que derrière, on se rend compte, la carte grise, j'en parle pas, le prix de la carte grise. L'assurance, impossible à avoir. Et l'entretien derrière, c'est immonde. En termes de prix, c'est immonde. Donc, l'accompagnement, c'est de se dire, quel est ton budget pour acheter ta voiture, certes, mais pour payer ton assurance, ta carte grise et surtout l'entretien, parce qu'on n'y pense pas suffisamment. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement global par rapport à ça. Ensuite, on va aussi voir au niveau de l'assurance, de pouvoir proposer la meilleure assurance. Et je dis pas la moins chère. Faut savoir que dans le monde des assurances, si on paye moins cher, c'est qu'il y a des choses en moins. Donc là, l'idée, c'est de dire, on va voir un assureur, on dit, quelle est la meilleure assurance pour un jeune conducteur, avec des avantages, par exemple, alors, sans dire le nom de l'assureur, mais il y a un assureur qui propose 3 à 4 accompagnements par rang si la personne a trop bu. Donc un jeune conducteur qui sort avec des amis, ils ont décidé qu'il y ait un SAM, mais ce fameux SAM a oublié qu'il ne devait pas boire, du coup, on appelle l'assurance, et on peut être raccompagné par un taxi chez soi en toute sécurité.
Ah, c'est pas mal ça. Et puis déjà, en plus, rien que trouver un assureur qui veut bien assurer un jeune conducteur, c'est pas toujours évident. Hein.
Oui, ça peut être compliqué.
Et qu'est-ce qui vous a motivé à la base à faire cette auto-école différente des autres ?
Plusieurs choses, en fait. Alors déjà, d'un point de vue risque routier, alors c'était une expérience personnelle, c'est-à-dire que quand j'avais 8 ans, il y a mes deux parents qui ont failli perdre la vie dans un accident de voiture. Et en fait, ça m'a profondément influencé dans le désir de contribuer à une meilleure sécurité routière, en fait. Donc déjà, il y a eu un événement personnel. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que juste avant de partir, j'avais bien vérifié donc que mes parents avaient la ceinture mise correctement. Et juste après, on est arrivé avec ma sœur en fait sur le lieu de l'accident, très violent. Enfin, il y a eu des séquelles assez considérables. Donc c'est vrai, c'est là où je me suis dit non, le risque routier, c'est pas juste des paroles. Il faut que ce soit mis en place. Et puis ensuite, sur la partie écomobilité, très clairement, je suis comme tous les parents. C'est-à-dire que je pense aussi au futur de mes enfants, de la planète de manière générale. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en faisant des gestes simples, on peut arriver à changer la donne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si tous les conducteurs en France, donc de véhicules, baissent de 20 à 25% leur consommation de carburant, ce qui n'est pas énorme, quelques gestes suffisent, on économise, entre guillemets, 1,5 année de déforestation de l'Amazonie en termes de consommation de carburant.
Oui, et puis ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. On suit vos conseils.
Exactement, exactement.
Je crois que pour le moment, on vous trouve notamment du côté de Saint-Étienne ou de Lyon. Est-ce qu'on pourra bientôt vous trouver dans toute la France ?
Alors là, on a Lyon, Saint-Étienne, Chambéry, Valence. Et par contre, on peut nous retrouver dans toute la France, notamment dans les formations pour le code de la route, qui se font de manière dématérialisée, et avec un produit que l'on a développé, qui s'appelle la Masterclass, en fait, et qui permet de se former en distanciel, même à l'éco-conduite, même au risque routier, et qu'on offre même gratuitement à toutes les métropoles qui nous en font la demande.
Eh bien, c'est noté. Je crois que vous êtes passionné de sport de haut niveau.
Oui, ben, j'ai été un ancien sportif de haut niveau, oui, tout à fait.
C'est la petite question bonus. C'est compatible, ça, avec la préservation de l'environnement, d'être passionné de sport de haut niveau?
Ah, ben, c'est vrai qu'on a vu pas mal de sportifs de haut niveau refuser d'aller à des compétitions au niveau mondial, et ça, je respecte fortement ce genre d'engagement, parce que c'est vrai qu'on met de côté sa carrière pour un engagement écologique, et c'est un exemple. C'est un exemple pour les jeunes. C'est quand même mieux que d'entendre un certain entraîneur dire qu'il prendra les chars à voile pour se déplacer, par exemple.
Je vois pas du tout de qui vous voulez parler.
Je sais pas. C'est fictif, hein, n'est-ce pas?
Merci beaucoup, Johan.
Mais je vous en prie. Merci à vous.
Aujourd'hui, l'éco-conduite fait partie des épreuves du permis de conduire. Mais au-delà du permis, rouler un peu moins vite, avoir une conduite plus souple, une voiture bien entretenue, et toutes ces bonnes pratiques permettent de moins polluer, de faire des économies et d'être plus en sécurité sur la route. Que de bonnes raisons de s'y mettre. Vous venez d'écouter Objectif Terre, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. Roulez tranquille et à bientôt.